Allez, non. Faut tout remettre là. Je me permets. Hein.
Ah, si, vas-y, allez, ouais.
Il y a les billets de 500 qui sortent là, c'est pas grave.
Non, ça c'est du lourd. Hein.
Stéphane, gloire à Dieu. C'est une grande joie de partager cette journée avec vous. En écoutant le premier chant, je pensais à ce que j'ai entendu cette semaine de la bouche d'un chanteur très réputé en France, dont je tairai le nom, qui disait ceci, on vient de finir un grand concert, plus de 4000 personnes, une ambiance de feu. Tout le monde est parti, les lumières sont éteintes. Il rentre dans sa loge, et c'est ses mots. Il rentre dans sa loge, et plein d'émotions, ce sentiment le saisit. Je suis seul. Je suis seul. Terrible, ça. Hein ? Et au fond, il n'est pas le seul, pourrais-je dire, à ressentir cette solitude. Car au fond, si on ne connaît pas Jésus le Christ, si on ne l'a pas reçu dans sa vie, on est seul, qui que nous soyons, où que nous soyons, on ressent ce vide intérieur. Il y a quelques semaines, je me rendais à La Ciotat. Je rentre sur l'autoroute. Et je suis saisi par cette parole. Dieu est là. Mais c'était si fort, si pressant dans mon cœur que je me suis mis à parler en langue dans la voiture, je conduisais, hein. Mais c'était extraordinaire de réaliser d'une manière vivante, pratique, concrète, Dieu est là. Il y a un vieux chant qui dit « Jamais seul avec Jésus sur le chemin de la vie ». Alléluia. Dieu est là. C'est pas une histoire, c'est pas religieux, c'est une certitude. Il est là en celui qui l'a reçu. Il y a un texte d'Écriture qui dit « Je me tiens à la porte et je frappe ». Et un jour, la plupart d'entre nous, nous avons entendu, au travers de la parole de Dieu, le Seigneur frapper à la porte de notre cœur. Comme la poignée était à l'intérieur, lui ne pouvait pas ouvrir. Mais c'est nous qui pouvons ouvrir. Et quand nous lui ouvrons la porte de notre vie et que nous lui disons « Rentre, Seigneur », eh bien, il rentre et il change notre vie. Un jour, quelqu'un a dit, en invitant une personne, il lui dit « Mais tu sais, lorsque tu viendras chez moi, il faudra que tu sonnes avec le coude. » Personne étonnée. « Mais comment avec le coude tu as ? C'est bien que tu aies un cerveau à 5 étages, mais je ne vois pas très bien le genre de sonnette que tu as inventé. » Alors il pose la question, mais pourquoi ? Il lui dit, mais je pense que lorsque tu vas venir chez moi, tes bras seront tellement chargés de cadeaux pour moi que tu seras obligé de sonner avec le coude. Et au fond, lorsque Jésus vient dans notre vie, il vient pour enrichir notre vie de toute manière. Nous n'avons rien à lui donner, il ne nous demande rien d'autre que de nous dire « Donne-moi ton cœur et moi je vais le remplir ». Gloire à Dieu. Allez, on ouvre ensemble la parole de Dieu dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 40 et au verset 26. Alors excusez ce petit pépé qui parle devant vous ce matin, mais je le fais avec un esprit qui est l'esprit vivant et éternel. Alors ce n'est pas moi, mais c'est le Seigneur. Et qui veut parler à notre cœur, et lui, il est toujours jeune. Alléluia, parce qu'il est l'Éternel. On lit ensemble. C'est à partir du verset 26. Bon, moi, je n'ai pas écrit quoi. Oui, c'est ça, oui. Levez vos yeux en haut et regardez qui a créé ces choses. Qui fait marcher en ordre leur armée ? Il les appelle toutes par leur nom. Par son grand pouvoir et par sa force puissante, il n'en est pas une qui fasse défaut. Pourquoi, dis-tu, Jacob ? Pourquoi, dis-tu, Israël ? Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Peut-être c'est des pensées qui parfois viennent essayer de s'installer dans votre esprit, voire dans votre cœur. Ne le sais-tu pas ? Ne l'as-tu pas appris ? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point. Il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Et écoutez, il donne de la force à celui qui est fatigué. Il ne va pas. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent. On a entendu parler d'adolescents ce matin. Se fatiguent et se lassent. Et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Alors Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Toutes les fois que la Bible parle de l'aigle, et elle le fait à plusieurs reprises, elle le fait en relation avec l'action miraculeuse de Dieu dans la vie de ses enfants. L'aigle se nourrit de chair fraîche et ne touche jamais au corps mort. Il préfère lui-même tuer sa proie, dont il fera sa nourriture. L'aigle n'est pas un charognard. Sa force à l'aigle s'accroît quand il peut se nourrir d'agneaux ou d'autres animaux purs. Nous nous souvenons des paroles que Jean-Baptiste adressait à ses disciples tout en désignant Jésus. « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Dans l'évangile de Jean, au chapitre 6 et au verset 53-57, Jésus leur dit, « en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. » Et je le ressusciterai au dernier jour, car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. Alors il ne s'agit pas de quelque chose de physique, et vous l'avez compris, mais quelque chose de spirituel, quelque chose qui a trait à notre esprit, à notre âme, se nourrir intérieurement de Christ. Cela a été rappelé un petit peu dans un don spirituel. Tout à l'heure, ces textes nous enseignent que sans la participation par le moyen de la foi, la vie du Christ mort, ressuscité et élevé dans la gloire, assis à la droite de la majesté divine, nous ne pouvons point, sans réaliser par le moyen de la foi toute la vertu puissante qu'il y a dans ces choses, eh bien, il n'y a pas de vie victorieuse possible. sur un, notre volonté propre, notre chair misérable, notre chair de péché, et les œuvres de la chair sur les circonstances et les pressions multiples de la vie, aucune possibilité par nous-mêmes de pouvoir triompher. Notre Dieu nous a donné un Christ, celui qui peut nous secourir dans tous nos besoins, qui change notre vie, parce qu'il vient habiter en nous. Il fait de nous, comme la Bible dit, une nouvelle créature. Les choses anciennes et qui faisaient de nous des gens misérables sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Et nous entretenons cette relation avec ces vérités. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité. La vérité, c'est Christ, l'œuvre de Christ. Et cette vérité vous rendra libre. Alléluia fera de vous des hommes et des femmes, des jeunes gens et des jeunes filles qui vivraient une vie de victoire sur le péché, une vie de victoire sur toutes les pressions de la vie. Parce que le Dieu de victoire, il habite en ceux qui ont ouvert la porte de leur vie. C'est lui qui est notre vie, Christ. Et c'est de lui dont nous nourrissons nos cœurs. Nous nourrissons les sentiments de notre cœur. C'est de lui dont nous nourrissons par le moyen de sa parole. À quel autre irions-nous qu'à lui? À quel autre? Il est le chemin, la vérité, la vie. Le seul nom qui a été de nos hommes par lequel nous puissions être sauvés. C'est lui qui est notre vie, à quel autre irions-nous? Nous sommes appelés à nous nourrir de lui en prenant la Sainte Cène ce matin. Ce n'est pas une nourriture physique, c'est tout à l'heure à table que nous nourrirons notre corps. Mais là, nous, par le moyen de la foi, nous nous sommes rappelés par l'action de l'Esprit de Dieu en nous que nous avons tout en Christ. Que le sang de Jésus-Christ nous a purifiés de tout péché. Amen. Nous nous rappelons qu'à la croix, Christ a pris nos péchés, a pris nos maladies, a pris nos infirmités. Il a tout cloué à la croix. Il est mort pour nous. Et c'est ce que nous nous rappelons chaque matin, chaque dimanche matin, lorsque nous participons à la scène. Il n'y a rien de religieux, rien de religieux. Mais c'est spirituel. Amen. Et nous avons compris ces choses par le moyen de la parole de Dieu et par l'action de l'Esprit de Dieu. Nous nous confions à lui chaque instant de chaque jour. Je ne puis comprendre cela. Il n'y a rien de rationnel, rien que je ne puisse comprendre avec mon intelligence. Je le crois de tout mon cœur et je vis chaque jour. Un miracle. Alléluia. Parce que marcher en nouveauté de vie, triompher de ce qui autrefois faisait de nous des gens misérables, aujourd'hui, nous réalisons, mais c'est un miracle. Je ne pouvais pas le faire. Moi, j'ai reçu des coups de martinet quand j'étais enfant. Mais ça n'a rien changé. Sinon, on me lacérait mes jambes. Mais c'était bien, je trouve, quand même, parce que ça vous rappelait à l'ordre, mais ça ne changeait rien. Parce qu'à la prochaine occasion, on refaisait la même chose. Hein? Un jour, je suis allé à la confesse. J'ai dit au curé, j'ai volé des pommes à l'étalage du primeur. La seule chose qu'il a su me dire, il m'a dit, allez les rendre. Et la seule chose que j'ai pu lui dire, je les ai mangées. OK? Mais depuis que Christ est en moi, il m'a délivré du vol, de toutes choses misérables. Il vit dans mon cœur. Dans Ésaïe, au chapitre 40, au verset 30, il y dit ceci, « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. » Vous savez ce que font les aigles lorsque le ciel se couvre de nuages noirs, que l'orage est là, des éclairs et le tonnerre. Vous savez ce que fait l'aigle ? Il étend ses grandes ailes qui font 2 mètres réunies ensemble lorsqu'elles sont étendues. Il prend les vents ascendants et il monte. Et il monte. Il traverse les nuages et il monte jusqu'au moment où les nuages sont sous ses pattes, où son regard ne voit que le ciel bleu et le soleil qui brille. Alléluia. C'est ce que nous avons lu tout à l'heure. Ceux qui se confient à l'Éternel, la foi dans le Christ, la foi vivante qui est entretenue, qui a été créée, qui est entretenue chaque jour par le moyen de notre contact avec Dieu dans la prière et dans la parole de Dieu, par le moyen de la foi, par le moyen de la foi, nous triomphons. Alléluia, si tu crois, tu verras dans toutes les circonstances de ta vie, quelles qu'elles soient, alors qu'autrefois, ces circonstances te brisaient. Aujourd'hui, le Christ en toi te permet d'en triompher. Il te permet de t'élever. C'est miraculeux. T'élever intérieurement, là, tu restes, toi, physiquement, tu restes là. Mais intérieurement, tu t'élèves au-dessus de tes circonstances par le moyen de la puissance de la foi qui agit en toi, le Christ crée en toi ces certitudes. Je suis là, ne crains rien. Ce n'est pas de la poésie que je vous dis, c'est l'expérience que nous faisons, que j'ai faite et que je ferai certainement par le moyen de la parole, parce que l'Esprit de Dieu, dans les moments difficiles, c'est nous communiquer une parole. Et cette parole change tout, puisque c'est par la puissance de la parole que Dieu a créé le monde et tout ce qui s'y trouve. La terre était informe et vide, Dieu dit. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Alors, elle est puissante, la parole. Elle n'a pas changé, parce que Dieu ne change pas. Il veille sur sa parole afin de l'accomplir à l'égard de ceux et de celles qui lui font confiance. Alléluia, confie-toi à l'Éternel. Et ce Dieu qui t'aime en Jésus-Christ, il te bénira et te relèvera. Dans Hébreux chapitre 12, au verset 13, il est dit, « Vous donc, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considéré. En effet, celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point, l'âme découragée. » Toute cette grande nuée de témoins dont parle cette lecture que nous avons faite dans Hébreux 11, que nous aurions pu faire, dans Hébreux 11, toute cette grande nuée de témoins. Je vous invite à lire et à relire ce chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux. C'est comme de l'eau fraîche pour celui qui est fatigué. Toute cette grande nuée de témoins est là pour nous crier courage et pour nous dire quel était le secret de leur force pour avancer contre vent et marée. Leur confiance inébranlable dans la parole de Dieu, la fidélité de Dieu, l'amour de Dieu, sa puissance et sa bonté. C'est la foi qui leur donna des ailes pour s'élever au-dessus de leurs circonstances et qui nous donne à nous aussi, pas par un autre moyen, non pas par nos œuvres, mais par la foi. Je sais bien que toi et moi, on est des gens formidables, on est des gens bien. Mais ce n'est pas parce qu'on est des gens bien que Dieu bénit, c'est parce qu'on croit. Alléluia. Surtout parce qu'on croit. C'est parce qu'on croit que Dieu a fait nous des gens bien, qui nous permettent de croire. Alléluia. Et d'expérimenter la grâce de Dieu. C'est la foi. Je le répète, qui leur donna des ailes pour s'élever au-dessus de leurs circonstances et voir ce que l'œil de l'incrédulité ne peut voir. Dieu, sur son trône, ce Seigneur qui a dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Ce n'est pas des paroles humaines, c'est la parole qui a tout créé, qui nous dit « Je suis ». Avec vous. Combien parmi nous, éprouvant dans leur cœur la lassitude, la fatigue, le découragement, la démotivation, ayant plus envie d'avancer, s'approchant du Seigneur, telle la femme à la perte de sang, le touchant au contact de la parole, de la prière, ont expérimenté un puissant renouveau et reprenant courage, se sont tout à nouveau mis à marcher, courir pour servir Dieu avec bonheur. Celui qui se confie, je le répète, en l'Éternel, trouvera toujours des ressources en lui, parce qu'elles sont inépuisables, des ressources en lui et dans les moyens de grâce qu'il ne manquera pas de mettre à leur disposition. Et notamment, quelque chose de formidable, la communion fraternelle. Béni soit Dieu pour l'Église. On est heureux d'être là ce matin. Heureux de voir votre pasteur, son épouse, de voir les frères et sœurs. Vous savez ce que ça produit ? Le psaume 133 nous le dit, c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. Alléluia, nous sommes bénis ensemble. Gloire à Dieu. Amen. Moi, je suis heureux de voir ma petite fille et son mari et ses enfants. Mais ça me fait du bien dans beaucoup de domaines. Mais de vous voir et de nous voir ensemble, ça nous fait expérimenter la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Dans le psaume 103, au verset 5, il est dit « C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse ». Qui te fait rajeunir comme l'aigle. Alors on peut être vieux tout en étant jeune, vous savez. On peut être jeune aussi et être plein de force. Et être plein de vieux et être des vieux aussi qui demeurent dans la faiblesse spirituelle, parce que c'est de celle-là que nous voulons parler. Vous voyez, moi je suis vieux. Je ne vous dirai pas mon âge, mais enfin, ça n'a pas d'importance. Hein. OK. Alors, quand on est vieux, eh bien, il y a beaucoup de choses qui... On a mal au rotule, hein ? On ne court plus le 100 mètres en quelques secondes. Mais ce n'est pas de cette vieillesse. Parce que celle-là, elle est naturelle. Mais ce qui est certain, c'est qu'un jour, ce corps que l'on déposera dans la tombe, parce qu'on le déposera tous dans la tombe, le corps, pas nous, mais les autres, un jour, il ressuscitera. Mais ce qui est important... c'est d'avoir en nous l'esprit de résurrection et d'avoir l'assurance que parce que Christ est en nous, nous avons la vie éternelle. Et cette vie qui peut s'appauvrir, cette vie spirituelle qui peut prendre des coups de vieux. Mais quand on est vieux, eh bien, on ne prend plus de plaisir comme on en prenait autrefois. On perd des forces, de la vitalité, de la vision, de l'ouïe, de l'entrain, de l'esprit d'entreprise. Ça peut être, ça, c'est donné aux vieux, c'est-à-dire aux vieux, mais ça peut être donné spirituellement aussi. Et tout en étant jeune, peut-être que manquer d'ambition, manquer d'esprit d'entreprise pour servir Dieu. Nous connaissons ce Seigneur qui peut nous rajeunir et qui peut nous renouveler dans bien des domaines. L'exemple de l'aigle est très intéressant. L'aigle vit entre 70 et 80 ans. À l'âge de 40 ans, il a un problème. Parce que son bec, il se remplit de cornes au point qu'il ne peut plus manger, ou très difficilement manger. Ses pattes aussi, elles se remplissent de cornes. Et ses ailes, elles ont vieilli et n'ont plus de force pour lui permettre de voler comme il le faudrait. Alors, à 40 ans, et puis à un moment, il est saisi, l'instinct animal. Pour nous, ce n'est pas l'instinct animal, mais pour lui, c'est un instinct animal. Il monte là, le plus haut, il peut monter là où il y a du rocher. Et il commence à gratter son bec sur la roche jusqu'au moment où la vieille corne, elle tombe et apparaît un nouveau bec, tout jeune, qui a besoin, bien sûr, un peu de s'affermir. Et avec ce bec régénéré, il va arracher la corne qui est sur ses pattes, qui l'empêchait d'aller saisir dans la vallée des brebis pour en faire sa nourriture ou d'autres animaux purs. Et puis, il va pouvoir s'arracher toutes ces vieilles plumes et des plumes nouvelles vont apparaître. Et au bout de 150 jours, à peu près, voici qu'il étend ses ailes et qu'il reprend son vol. Il nous fait rajeunir comme l'aigle. Alléluia. Donc, si l'aigle, par un exercice volontaire, peut ainsi retrouver une nouvelle jeunesse, moi, aujourd'hui, peut-être assis au bord du chemin, n'ayant pour seule nourriture que de vieux souvenirs qui me rendent mélancolique, voire aigri, voire critique envers ceux qui s'activent, je veux mettre tout en œuvre dans ma vie pour renouveler ma jeunesse spirituelle. Par quels moyens ? Par un retour à la parole, par un retour à la prière, par un retour à la recherche de Dieu, par un retour en me tenant devant la présence de Dieu, pour que tout à nouveau le ciel s'ouvre sur ma vie et que l'Esprit de Dieu m'embrase. On va lire un texte dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 4. Un problème vient frapper l'Église primitive. Pierre et Jean sont interdits de pouvoir continuer à prêcher l'Évangile. Menacés de mort. L'Évangile dérange. D'abord, l'Évangile dérange le diable. Et l'Évangile dérange le monde gouverné par le prince de ce monde. Le diable, on lit ensemble. Actes chapitre 4, versets 24 à 26. Lorsqu'ils l'eurent entendu, les Pierre et Jean reviennent vers l'Église, vers les croyants, et ils exposent ce qui vient de se passer. L'interdiction qu'ils ont reçue de ne plus prêcher l'Évangile, sinon il va leur en coûter la vie. Lorsqu'ils l'eurent entendu, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils vont utiliser les moyens spirituels, non pas d'une manière religieuse, mais convaincus que Dieu est là et qu'on peut crier vers lui. Que Dieu est là et quand un malheureux crie, l'Éternel entend et le délivre de toutes ses détresses. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent la voix tous ensemble vers Dieu et dirent « Seigneur, Seigneur, la prière, elle n'est pas adressée à ceux qui sont autour, elle est adressée ensemble à Dieu. Toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit « par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David. Pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son roi. On lit les versets 29 à 31. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces. Comme ça qu'on parle à Dieu, parce qu'on croit qu'il voit. Il n'a pas besoin de lunettes comme moi. Il voit. Vois leurs menaces. Et comme et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Alléluia. Voilà le remède. Parce que l'on peut aussi traverser des moments où la persécution est là, des moments où le découragement essaie de nous saisir, des moments où nous ressentons de la lassitude. Je ne s'explique pas pourquoi, mais c'est là. On ne rencontre pas toujours des faveurs de la part des gens qui nous entourent. Pas facile d'être chrétien sur la terre. Mais avec Jésus, on peut. Alléluia. On peut tout risquer avec lui. Les disciples ont tout risqué avec lui. L'Église des premiers siècles, pendant 3 siècles, a été persécutée. Mais c'est dans cette période de persécution que l'Église est le plus développée. C'est quand Constantin, un politicien raffiné, a compris que pour arrêter cette activité, pour la freiner, il valait mieux cesser la persécution, parce que plus on les persécutait, plus ils se multipliaient. Et au fond, il a apparemment échoué. Voyez-vous, c'est dans les moments difficiles. Et le Seigneur veut se servir de ces moments difficiles pour que nous puissions réaliser qu'il est là. Il y a un vieux que j'aime bien dans la Bible. C'est Caleb. Il avait 40 ans et Dieu lui a fait des promesses alors qu'il était dans le désert. Il lui a dit, tout lieu qu'aura foulé ton pied, alors que tu étais en train, avec 12 autres personnes, de faire un petit peu un état des lieux du pays que Dieu nous donnait. Caleb, lui, a cru fermement que ce que Dieu avait dit, sa main l'accomplirait. Mais ça a duré 45 ans. L'instant où Dieu lui a dit, le pays que tes pieds ont foulé, je le donnerai à toi et ta postérité. 45 ans. Et pendant 45 ans, il a serré cette parole, pas sur son cœur, mais dans son cœur. OK ? Il n'a pas mis ça comme un objet qui te croit. Non. Il l'a serré dans son cœur. Il a vécu avec cette parole. Et alors qu'il avait 85 ans, il dit à Josué, j'avais 40 ans. Lorsque Dieu me parlait ainsi, j'en suis aujourd'hui 85. Donne-moi cette montagne. Même s'il y a des géants, je les vaincrai par la force, de la foi, de la confiance en la parole de Dieu. La foi peut tout. Nous n'avons que la foi. Habacuc a compris qu'il n'y avait qu'un seul moyen pour avoir la paix et vivre dans un esprit de victoire. C'était la foi. En Deutéronome, au chapitre 32, versets 9 à 11, je regarde l'heure, c'est bon. Deutéronome 32, verset 9. « Car la portion de l'Éternel, c'est son peuple. Jacob est la part de son héritage. Il l'a trouvé dans une contrée déserte, dans une solitude aux effroyables hurlements. Il l'a entouré, il en a pris soin, il l'a gardé comme la prunelle de son œil. Pareil à l'aigle qui éveille sa couvée, voltige sur les petits, déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes. L'Éternel seul a conduit son peuple. Il n'y avait avec lui aucun dieu étranger. Alors voyez-vous, très rapidement, le mâle et la femelle ont décidé d'avoir des petits aiglons. Alors tous les deux ont commencé à construire un nid sur la plus haute des montagnes. On a porté des branchages. On a mis sur la plus haute montagne, on a mis des branchages en forme de nid. On est allé tuer un agneau. On l'a dépecé, on l'a mangé, ce qu'on a dépecé. Et puis on a mis la peau au fond de ce nid pour que la femelle puisse y pondre ses œufs et puisse les couver. Et pendant qu'elle le couvait, le mâle, il allait chercher à manger, il donnait à manger à la femelle. C'est comme ça que vous faites avec vos femmes, n'est-ce pas, messieurs? Donc, et à un moment, les petits aiglons sont nés. Et alors, le mâle et la femelle allaient chercher à manger, nourrissaient les petits aiglons. Ils ne pouvaient pas voler, ils étaient tout petits. Ils ne pouvaient pas aller chercher à manger, ce n'était pas possible, n'est-ce pas? Mais il est arrivé un moment où les aiglons sont devenus capables de pouvoir voler. Alors, le Seigneur ne veut pas entretenir... Nous entretenons dans une vie de paresse. N'est-ce pas? Parfois, nous pourrions dire, mais je connais le Seigneur, il va me bénir, etc. Et alors, on reste là. Alors que nous aurions à faire, nous ne faisons rien. Mais il y a un moment où, c'est dans la nature des choses pour l'aigle, où le mâle et la femelle étendent leurs ailes et les petits aiglons, enfin les aiglons qui sont en mesure de voler, s'agrippent sur les plumes. Et on prend l'élan et on monte assez haut. Et à un moment, le mâle et la femelle secouent les ailes. Les petits aiglons, ils se demandent qu'est-ce qui leur arrive, n'est-ce pas? Alors ils s'accrochent, même à un moment, ils ne peuvent plus s'accrocher et ils tombent. Alors le mâle et la femelle regardent les petits aiglons. Et alors quand ils voient qu'un va finir par s'écraser, ils passent dessous et puis ils les récupèrent. Et ils remontent. Jusqu'au moment où les petits aiglons deviennent des aigles, capables de voler par leurs propres ailes. Permettez-moi de vous dire ceci, que Dieu permet parfois, dans la vie des enfants de Dieu, des événements douloureux qui nous ébranlent, peut-être dans notre foi, peuvent semer du trouble, baigner de larmes notre visage. Il permet des déceptions, mais tout a un but avec Dieu. Dieu nous éprouve parfois. Dieu permet l'épreuve. Mais il donne le moyen d'en sortir. Et l'épreuve, elle est pédagogique. Dieu veut que nous devenions des hommes faits à la stature parfaite de Christ. Dieu veut que nous devenions des gens solides à la foi. Dieu veut nous permettre, dans les moments difficiles, de mieux connaître le Seigneur, d'avoir un plus grand contact avec lui, afin que notre foi ne reste pas une foi enfantine, mais une foi ferme, solide. Comme pour ces aiglons, peut-être notre nid douillé ici-bas a été brusquement démoli. C'est terrible, hein? Les petits aiglons, ils devaient se demander, mais pourquoi ils sont en train de jeter cette belle peau de brebis qui nous tenait chaud, à laquelle il faisait bon vivre. Pourquoi nous laisse-t-il sur un rocher nu? Pourquoi? Mais ça avait un but. Le Seigneur est une pédagogie, mais il est aussi un papa. Il est notre Père à tous. Et nous sommes tous ses enfants. L'Esprit de Dieu rend témoignage à notre cœur que nous sommes fils et filles de Dieu. Dieu n'agit pas au hasard, par humeur, comme pour ces aiglons, notre nid douillé ici-bas a été brusquement démoli. Nous avons l'impression de nous retrouver face à un vide terrifiant, mais Dieu est là. Dieu est là, ne doutez jamais. Si Dieu permet que vous traversiez des moments difficiles, ne doutez jamais que Dieu soit absent. Il est là. Il est là avec ses enfants. Il est là dans ta maison. Il est le chef de ta maison. Il t'a donné sa parole afin que tu la consultes. Il t'a mis en toi son esprit afin que, par son esprit et par le moyen de sa parole, il puisse te communiquer une parole d'encouragement. Il puisse te réconforter. Il puisse te donner une direction. Je bénis Dieu. Ce qu'un jour, et ça s'est répété que ce fois, il a su donner une direction à notre vie. Un jour, il y a un pasteur qui vient, il me dit, « Marcel, tous les deux avec ta femme, vous partez. » Et on part où ? Vous partez à Manosque. On ne connaissait même pas Manosque. Il fallait quitter le boulot et partir avec deux enfants tout petits. Je lui ai dit, « Mais attendez, on va demander au Seigneur. » Parce que partir, c'était l'aventure. Alors avec ma petite femme, on a pris la Bible. On a dit, « Seigneur, parle-nous. » Je fais ce que je déconseille, mais je l'ai fait une fois. J'ai ouvert comme ça. Et Dieu m'a dit, mes yeux sont tombés là-dessus, c'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et qui vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, que ce fruit demeure. Dieu parle. Amen. Il sait nous parler. Alors soyez certains, traversez peut-être aujourd'hui des moments difficiles, peut-être vous avez perdu un être cher, peut-être votre l'avenir vous paraît sombre à cause de certains événements, certaines choses. Dieu est là. Comme le mâle et la femelle étaient là pour récupérer des petits aiglons. Ils remontaient à la surface. Dieu est là. Je vais terminer. On va lire deux textes très rapides. Deutéronome 8, versets 2 et 3. « Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur. » C'est aussi vrai pour nous. « Et si tu garderais ou non ces commandements, il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères afin de t'apprendre. » Nous avons besoin d'apprendre et parfois pour apprendre. Il faut que notre esprit s'ouvre et notre esprit s'ouvre parfois dans les moments où c'est compliqué afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement. Parfois, nous ne le savons pas trop, ça. Que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole, de toute parole, de toute parole. Vous voulez le dire avec moi, haute voix ? De toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et le dernier texte, 2 Corinthiens, chapitre 1, versets 8 et 9. Nous ne voulons pas, en effet, vous laisser ignorer, frères, au sujet de la tribulation qui nous est survenu en Asie, que nous avons été excessivement accablés, au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie et nous regardions comme certain notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes. Afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu qui ressuscite les morts. Alors ça, ce n'est pas un cerveau à 5 étages qui peut vous faire comprendre cela. Non, non. Et que l'Esprit de Dieu est encore. Faut-il que notre cœur soit bien disposé et sensible pour permettre à cette parole de venir mettre ses certitudes en nous, cette assurance en Dieu qui ressuscite les morts. Les morts ressusciteront. Alléluia. Je vais mourir un jour, mais je sais qu'un jour, je ressusciterai et mes yeux verront Jésus. Alléluia. Un vieux chant dit ceci, ne crains pas ou ne crains rien, je t'aime. Je suis avec toi, promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur, l'âme consolée, je marche avec mon Sauveur. Alléluia, gloire à Dieu, Dieu est là. Et pas seulement là, mais il est là. Alléluia, avec toi, avec nous, tous les jours, 24 heures sur 24. Il est là. Alors ne crains pas, crois seulement. Amen. Merci Seigneur pour ce partage de ta parole. Merci pour ta présence. Oui, tu es là. Et nous te disons merci de nous honorer de ta présence ici. Mais merci de vivre en nous. Seigneur, merci parce que tu es avec nous. Nous allons partir, mais tu restes avec nous. Nous allons à la maison, mais tu es avec nous à la maison. Demain, nous allons au travail, mais tu es avec nous au travail, tous les jours, chaque instant. Seigneur, bénis mes frères et mes sœurs. Bénis cette assemblée dans cette ville. Bénis son témoignage, cette ville, dans toute cette région. Que la gloire de Dieu y soit manifestée. Parce que Jésus est vivant. Son esprit est là. Il veille sur sa parole. Et en la proclamant, nous croyons que tu la confirmes. Merci Jésus. Amen. Gloire à Dieu, que Dieu vous bénisse.
Merci à notre frère Caleb.
Alléluia.
Alors, vous pouvez partir si vous êtes pris par le temps, mais j'aimerais, pour ceux qui restent, on merci. Va chanter merci. Ce chant dont il nous a été fait mention tout à l'heure. Parce que moi, je ne m'appelle pas Caleb, mais ce vieux chant, je l'ai appris il y a déjà quelque temps. Hein ? Vous connaissez ? Alors, on y va. Sans musique. Vous êtes prêts, hein ? Attention, les anciens. Qui le connaît ? Levez la main. Ah ben, vous êtes en train de soutenir. Ne crains rien, je t'aime. Je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur. L'âme consolée, je marche avec mon Sauveur. Attention! Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur, me garde, je ne suis jamais tout seul. L'aube matinière ne luit qu'au beau jour. Jésus est ma lumière, m'éclaire toujours. Quand je perds de vie, l'astre radieux. À travers la nuit, Jésus me montre les cieux. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur, me garde, je ne suis jamais tout seul. Encore une strophe. Ça va ? On la termine, hein ? Il faut la terminer, frère. Sinon, c'est la dernière. Alors, on y va. Les dangers accourent, subtils inconnus. De près, tour plus près est Jésus, qui dans le voyage me redit et c'est moi. Ne crains rien, courage, je suis toujours avec toi. Et non,
Jamais tout seul, oh non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, je ne suis jamais tout seul.
Gloire à Dieu, cet après-midi, 16h, on a trois baptêmes. Vous êtes là, hein, les baptisés, là. Annick,